La plupart des filles qui restent à l'hôpital au-delà des 5 ans ont vraiment ce qu'on appelle la vocation, c'est-à-dire que elles aiment leur métier, mais ces filles-là deviennent vraiment esclaves de leur idéal. C'est quand même assez triste. On ne peut pas demander aux gens de travailler pour rien, même pour faire quelque chose de très beau.
À l'instant, la voix d'une toute jeune femme, infirmière, résonnant dans un documentaire diffusé en 1973 et titré « La fuite des infirmiers ». On peut pas demander aux gens de travailler pour rien, même pour faire quelque chose de très beau, glissait-elle à l'époque tout doucement. Travaille-t-elle encore aujourd'hui? Dans un article scientifique publié 35 ans plus tard, l'une des théoriciennes françaises du CARE, Pascale Molinier, proposait une définition et insistait sur cette notion de travail. Je cite « Avant d'être une éthique, le CARE est un travail. Prendre soin de l'autre, ce n'est pas penser à l'autre, se soucier de lui de façon intellectuelle ou même affective, ce n'est pas nécessairement l'aimer, du moins en première intention, c'est faire quelque chose. C'est produire un travail qui participe directement du maintien ou de la préservation de la vie de l'autre. Alors si tous conviennent aujourd'hui, comme en 1973, qu'il s'agit d'un travail très particulier, essentiel, il mérite d'autant plus d'être reconnu comme tel et à sa juste valeur. Il est 14h passé de 2 minutes, bienvenue dans les Nouvelles Vagues. Chaque semaine, nous demandons à quelqu'un d'éclairer ce chantier thématique par 5 récits en lien avec celui-ci. Samedi après-midi dernier, Alice Ramon est allée rencontrer la pédopsychiatre Clémentine Rapaport dans son service à l'hôpital Robert Bélanger d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, elle évoque l'importance du lieu et de l'insertion de son service dans un bâtiment femme-mère-enfant pour la continuité du soin. C'est le premier moment donc de notre chantier thématique consacré à prendre soin. Et il fut une évidence pour nous de débuter cette série en entendant des paroles d'infirmiers et d'infirmières. En vue, bien sûr, de l'appel à la grève de demain, la profession est amenée à se mobiliser pour réclamer, encore une fois devrait-on ajouter, de meilleures conditions de travail, mais aussi une évidence car cette profession, en dialogue avec les aides-soignants, les médecins, le reste des personnels, nous a semblé être au premier chef de la réflexion et de la pratique autour de prendre soin. D'ailleurs, ce mot, le soin et prendre soin, cette expression, reviennent à de très nombreuses reprises dans la définition officielle du métier d'infirmier et dans le détail de sa formation. En plateau avec nous, Inès Gray, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infirmière de nuit aux urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris. Et Ottilia Aigneret, vous êtes infirmière à l'hôpital Necker à Paris dans le service immunologie, hématologie et rhumatologie pédiatrique. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Au téléphone, Jérôme Daéro, vous êtes infirmier en gérontologie sur l'île de la Réunion. Est-ce que vous nous entendez convenablement ?
Oui, bonjour.
Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Et on va rajouter à vos trois voix une quatrième voix que Romain de Bec-de-Lièvre a interviewée vendredi dernier.
Alors j'ai un diplôme d'État d'infirmière, donc le cursus se suit dans un établissement qu'on appelle Institut de formation de soins infirmiers, mais qui est général en fait. Une fois qu'on sort de là, on peut travailler en maison de retraite, en service hospitalier, on peut travailler dans des services de soins à domicile en ville. Voilà, ça ouvre, on peut travailler en psychiatrie, ça ouvre vraiment plein d'horizons très divers. Alors, moi, il y a plusieurs choses, bon, c'est vraiment d'ordre, j'allais dire personnel, mais c'est pas vraiment un choix au départ. Je pense que j'ai toujours une attirance, je pense, pour les personnes âgées. Bon, j'ai eu des grands-parents qui étaient assez vieux, puisque quand je suis née, moi, ma grand-mère avait près de 70 ans, donc déjà, voilà, j'ai été pas mal avec eux, donc bon. Peut-être que ça joue, peut-être que... Et puis, très tôt, en fait, j'avais déjà fait un premier cursus étudiant infirmier il y a une vingtaine d'années. Et en parallèle, pour payer mes études, je travaillais chez des personnes âgées à domicile. Donc j'ai acquis un peu d'expérience et puis ça m'a plu. Finalement, j'ai repris des études, donc 20 ans après. J'avais pas du tout comme objectif de travailler avec des personnes âgées. Je pensais faire une formation pour travailler auprès d'enfants, plutôt en néonatologie en particulier. Et puis en fait, j'ai été un peu pas découragée. Je me suis demandé dans quelle mesure j'étais pas peut-être un peu trop fragile pour explorer la maladie auprès d'enfants, en fait. Voilà, j'avais travaillé avec des enfants, je me suis dit que travailler auprès d'enfants et travailler auprès d'enfants malades, c'est quand même des choses bien bien distinctes. Et du coup, j'ai pas poursuivi cette voie-là. Puis finalement, en fait, moi, ce qui m'a vraiment détournée de l'hôpital, c'est les conditions actuelles de travail. J'ai beaucoup de collègues qui y travaillent, j'ai aucun regret de n'avoir pas postulé en service hospitalier. Et puis la maison de retraite, parce que ça, bizarrement, ça offre certains avantages, à savoir qu'on ne travaille pas la nuit, qu'on ne nous oblige pas à travailler la nuit, puisqu'il n'y a pas de poste, enfin, rares sont les maisons de retraite où il y a des postes infirmiers. Donc ça, moi, c'était quelque chose que je ne voulais plus, travailler la nuit. Et puis, le fait que les absences sont quand même très souvent remplacées. Moi, enfin, par exemple, là où je travaille, je n'ai jamais eu à travailler seule sur une plage horaire.
C'est un premier temps de cet entretien que Romain de Bec-de-Lièvre a mené avec Dorothée Guéry, qui est infirmière en maison de retraite à Toulouse. Plusieurs choses dans ce premier bout d'entretien qu'on va commenter tous ensemble. Peut-être d'abord le choix du métier et l'idée, on l'entendait dans une archive de 1973, d'une vocation à prendre soin. Comment est-ce que vous la figurez les unes et l'autre au téléphone? Et puis ensuite, le choix du public, de la personne, des personnes dont on va ensuite prendre soin. Inès Grasse, ça s'est formulé comment pour vous, ce choix?
C'est vraiment des raisons toutes personnelles et chaque infirmier vraiment a une raison particulière à choisir ce métier. Enfin, y a vraiment des personnes pour qui c'est le fait d'avoir été à l'hôpital quand ils étaient enfants et d'avoir eu contact avec des infirmiers. Moi, ma mère était infirmière, c'est aussi peut-être qui m'a mis sur la voie. Enfin, mon père est aussi dans le paramédical. Ça ouvre enfin, le fait de le voir de l'intérieur, ça aide à comprendre ce que c'est et ça donne envie de le faire. Après, c'est pas quelque chose qu'on conseille en général.
C'est-à-dire, si vous
regardez déjà sur les fiches métiers, tout bête, les fiches métiers qui aident les lycéens à s'orienter, une des choses qui est conseillée, c'est ayez un bon équilibre mental et une bonne condition physique. Sinon, vraiment, c'est déjà une première mise en garde assez... Alors préparez-vous à travailler de nuit, à rester 12 heures d'affilée debout, voire même en courant. C'est pas un choix facile, mais il y a beaucoup de métiers pénibles et il faut les faire, mais ça reste super intéressant.
Vous diriez que vous avez fait ce choix en connaissance de cause. Alors si vous aviez connaissance de la difficulté, de l'engagement que requiert le métier d'infirmière, vous diriez que quoi, vous aviez envie de prendre soin, que c'était quelque chose qui s'imposait à vous?
On a envie de prendre le risque, oui. Enfin, quand on est jeune, on ne s'attend pas à ce que ce soit ça. On connaît pas bien le milieu hospitalier, c'est opaque comme endroit. Enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir quelqu'un à l'hôpital, mais on ne comprend pas ce qui se passe. C'est peut-être comme ici à la maison de la radio, on rentre, il y a des lumières partout, on est perdu. Et c'est un peu la même chose qui arrive quand on rentre dans le bain. Donc le choix, vraiment, il se fait avec des idées, des idéaux et qui petit à petit peut-être tombent en morceaux ou peut-être pas, il faut essayer de les maintenir.
Quant à vous, comment ça s'est passé pour vous, Thilia Aigneret?
Du coup, moi quand j'étais plus jeune, j'avais envie de travailler dans le milieu social et j'avais aussi envie de faire du soin. Je savais pas que c'était infirmière, mais voilà, j'avais ces deux idées que je voulais mettre ensemble. Et du coup, j'avais des amies qui déjà savaient qu'elles voulaient devenir infirmières. Et en fait, dans ma famille, on a une psychologue qui travaille en soins palliatifs. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage, mon stage de troisième, dans son service de soins palliatifs. Et donc, c'est là que j'ai décidé que je voulais devenir infirmière et que ça corrélait vraiment avec ce que je recherchais.
Et alors, c'est étonnant parce que vous parlez vraiment de ce que vous recherchiez en étant encore plus jeune, sachant que vous n'êtes pas beaucoup, enfin, vous n'êtes pas très âgé maintenant.
J'ai que 24 ans.
Vous parliez déjà de l'idée de prendre soin. En tout cas, vous prononcez ce mot-là. Ça voulait dire quelque chose pour vous à l'époque?
Mais tout à fait. De toute façon, depuis très jeune, j'ai vraiment l'envie d'aider. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Il faut que je puisse être avec l'autre, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. C'est quelque chose très très important pour moi.
Alors on reviendra plus profondément tout à l'heure sur cette notion du prendre soin, on va développer. Mais pour vous, il y avait cette possibilité d'être infirmier. Est-ce qu'il y a d'autres métiers auxquels vous avez pensé?
Alors oui, j'avais pensé à d'autres métiers. J'avais pensé à un musicothérapeute parce que je pratiquais du violon à l'époque.
Tous les métiers transverses aussi, dans le social, comme assistante sociale, comme éducateur spécialisé. Parce que avant aussi, je me dirigeais plus dans le milieu de la dictologie. Du coup, c'était vraiment aussi centré sur tout ce qui est centre d'accueil, donc vraiment qui se portait aussi sur le social.
Et quand vous prononcez tous ces métiers-là, d'éducateur spécialisé, d'aide-soignant, ce sont évidemment des métiers auxquels on a pensé pour commencer cette semaine de prendre soin. Est-ce que vous diriez qu'il y a une spécificité dans le métier d'infirmier et d'infirmière qui ferait de vous des personnes peut-être encore plus légitimes à prendre la parole sur ce chantier thématique de prendre soin pour commencer ?
Je ne suis pas vraiment certaine. Parce que chaque métier a ses particularités, mais en même temps, elles sont tout aussi légitime pour chacun d'avoir cette spécialité. Mais en même temps, on se réunit tous. Enfin, quand je vois aide-soignant, elles prennent soin des gens. Et elles sont là. Elles font pas les mêmes, peut-être, activités techniques, entre guillemets, mais on est tous là pour la même raison, on va dire. C'est pour aider. La légitimité à prendre la parole sur le plateau, non, je suis pas sûre. Tout le monde a son mot à dire.
Et vous concernant Inès ? Bien sûr, hein, c'est pas une question de savoir si les uns ou les autres ont plus leur mot à dire. Simplement, on parle plutôt de la question des métiers.
Oui, ben justement, le malaise, il est pas qu'infirmier, il est aussi aide-soignant, aide médico-psychologique chez les médecins sur un autre degré. Le malaise, il est dans tout l'hôpital, mais fait toutes les structures de soins, mais si on parle plus des infirmiers, c'est aussi fait. Ce qui est intéressant chez les infirmiers, c'est que il y avait des propositions pour changer le nom du métier, bon, qui était très très souterraine, mais en coordinateur de soins. Alors je sais pas exactement quel était le mot, mais c'est vraiment coordinateur de soins dans le sens où l'infirmier c'est la personne un peu centrale qui est auprès du patient et qui lui transmet les informations du médecin qui coordonne avec son binôme aide-soignant par exemple les soins qui gère également l'arrivée des stocks de la pharmacie c'est une pièce assez centrale. Le poste de soins c'est l'endroit vraiment où tout se regroupe et l'infirmier c'est son métier de réunir toutes les informations pour que le soin soit fait au mieux pour le patient. Enfin, le fait de coordonner toutes les actions, c'est spécialement infirmier.
Et alors vous diriez que justement cette transformation de la désignation du métier d'infirmier, elle allait dans un sens qui vous paraissait positif, de mettre en avant la coordination, le rôle coordinateur de soins.
Oui. C'est exactement ça.
Quant à vous, Jérôme Daïrou, on parlait à la fois du choix du métier, puis on n'a pas encore évoqué le choix des structures et le choix des publics. Ça s'est présenté comment pour vous ?
Alors, effectivement, moi, je me suis orienté sur le métier d'infirmier un petit peu par hasard, on va dire, puisque au départ, j'étais sur un cursus universitaire en histoire-géo. Et c'est au fur et à mesure des rencontres que effectivement je me suis mis à songer pourquoi pas être infirmier, parce que j'avais besoin d'un travail qui avait une certaine utilité sociale et sur lequel effectivement je pouvais accompagner l'autre, et il me semblait assez cohérent de me lancer dans ce travail d'infirmier. Et donc je m'y suis lancé. J'avais un bref aperçu effectivement du métier paramédical, on va dire, puisque ma mère était aide-soignante, donc c'est un petit peu pareil. J'avais ce point en tout cas d'entrée dans ce métier-là. Mais effectivement, je me suis un peu lancé aussi dans l'inconnu de ce que c'était que la structure hospitalière, vraiment ces premières entrées dans les services hospitaliers qui sont assez. Assez marquant quand même, effectivement, où on est un petit peu perdu dans cette organisation et puis cette lutte, on va dire, contre la maladie. Donc, dans un premier temps, je me suis orienté sur ce métier un petit peu par hasard. Et puis, au fur et à mesure de mon cursus, là, j'ai commencé à prendre l'ampleur un petit peu du métier d'infirmier et à me diriger sur cette notion plus du prendre soin, qui pour moi est centrale dans le métier d'infirmier. Et à l'inverse, un petit peu, je pense que, alors je ne sais pas si on est les mieux pour pouvoir parler de se prendre soin, mais il me semble quand même qu'il y a cette notion de soin et d'attention particulière derrière que l'infirmier a plus peut-être que d'autres métiers. Et effectivement, après, on peut parler des aides-soignants qui sont vraiment aussi sur cette tranche-là aussi du prendre soin. Mais l'attention particulière entre le soin et l'accompagnement, on va dire, effectivement, c'est un petit peu l'infirmier qui mène la baguette, quoi. C'est un petit peu le chef d'orchestre aussi dans ce prendre soin, en tout cas.
Inès Gay parlait tout à l'heure du fait que nous entendons beaucoup parler des infirmiers. En revanche, est-ce qu'on entend beaucoup parler les infirmiers ? Il y a aujourd'hui un dossier dans le journal quotidien Libération où il y a des petits extraits d'entretien davantage sur la difficulté du métier que sur le cœur de leur pensée autour de leur pratique, autour du prendre soin. Est-ce que vous avez souvent l'occasion de prendre la parole, d'échanger sur ce qui fait le cœur de votre métier, Jérôme ?
Parler, non, c'est vrai qu'on n'a pas, d'ailleurs je vous en remercie, mais on n'a pas souvent quand même aussi cette tribune que vous nous offrez aujourd'hui, hein, je veux dire, comparé à d'autres métiers comme les médecins, hein, qui se font beaucoup plus entendre que les infirmiers, où on reste un petit peu en retrait quand même. Il y a des initiatives qui commencent à percer sur tout ce qui est recherche scientifique en soins infirmiers, qui commence pour pouvoir aussi étayer et puis avoir un socle solide, hein, pour pouvoir porter cette profession d'infirmier et se prendre soin derrière. Et donc il y a des réflexions qui sont menées, hein, sur tout autour de se prendre soin, qui est pour moi est la base de notre profession, effectivement.
C'est vrai qu'il y a, et en effet on peut le trouver, mais encore faut-il peut-être le chercher ou en avoir connaissance, hein, tout un corpus universitaire qui réfléchit au cœur du métier d'infirmier et d'infirmière et qui réfléchit à la place de se prendre soin, notamment à partir du moment où la notion de care est sortie dans les universités américaines. Est-ce que vous diriez l'une et l'autre, Inès et Otilia, que vous pratiquez un métier qui n'est pas très bien connu au fond ? Inès Gay. Est-ce que vous diriez que votre travail, quand on prononce le mot d'infirmier, est-ce que vous avez l'impression que derrière ça, les gens se figurent ce que vous faites au quotidien ?
Alors pour moi, il y a beaucoup de représentations différentes qui correspondent pas vraiment à ce qui se passe.
Il y a souvent des images sur Internet qui tournent avec le métier infirmière et qui va avoir des représentations différentes selon les amis, selon les grands-parents, selon machin. Et c'est vrai qu'il y a une représentation différente. Il y en a beaucoup qui s'imaginent que, par exemple, les infirmières de nuit, elles bossent pas trop parce qu'elles sont de nuit, donc elles dorment énormément. Il y en a beaucoup qui vont se dire, au niveau des grands-parents, que ce sont des gens seulement bienveillants, beaucoup de gens aux urgences qui arrivent et qui vont se dire qu'en fait ça glandouille derrière et qu'on attend des heures pour rien, qu'est-ce qu'elle fiche. Il y en a qui vont se dire que finalement c'est que piquer, c'est que faire des soins techniques, c'est que faire des pansements. Alors que finalement, c'est
dans les coulisses,
c'est tellement de choses.
C'est pas du tout pareil. Enfin,
non.
Le métier infirmier est très complexe. Surtout que la difficulté, c'est la difficulté de rassembler les 600 000 infirmiers qui sont en France. S'ils n'arrivent pas à se rassembler, c'est parce que les structures sont toutes très différentes, la façon d'y travailler est différente, les rythmes horaires sont différents. Voilà, il y a des structures où travailler de nuit, c'est en effet un peu comme de la veille et on n'y fait pas grand-chose. Et d'autres structures où travailler la nuit, c'est courir partout. Et même faire de la veille, c'est important parce que s'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait un infirmier. Et toutes ces représentations, elles sont pas fausses parce qu'il y a autant de personnalité d'infirmier que de personnalité ailleurs. Enfin, il y a en effet des infirmiers qui glandouillent et qui préfèrent prendre une pause que aller discuter 5 minutes avec quelqu'un qui est angoissé pour le détendre. Enfin,
c'est pas la majorité.
C'est difficile à classer.
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir à déconstruire lorsque vous échangez, que ce soit avec des amis, la famille ou d'autres corps de métier, déconstruire des visions de votre métier qui ne seraient pas justes ?
Oui, mais comme disait Otilia, il y a beaucoup de personnes pour lesquelles être infirmier c'est très technique. Et malheureusement non, il faut pas être une machine. Enfin, c'est ce qu'on tend à devenir à cause des restrictions budgétaires, de personnel, etc. On tend à aller vers l'efficace, vers le piquer, perfuser, mettre des antalgiques, partir. alors que en face on n'a pas enfin on n'est pas dans une usine, c'est pas une chaise ou une voiture qu'on a devant nous. Il faut lui expliquer, il faut prendre le temps de, enfin il y a des personnes qui sont plus rapides à l'adaptation que d'autres, il y en a qui, pour lesquelles il faut prendre le temps, 5 minutes, faire une blague, n'importe quoi, pour que le soin soit plus efficace. Enfin, ça fait vraiment partie du soin, c'est bête, mais quelqu'un sera plus soulagé si il est détendu que si juste on lui passe un médicament qui va en effet baisser la réception de la douleur, baisser la perception de la douleur dans son corps, mais derrière son cerveau est pas disponible. Enfin, c'est important.
Getting paid, getting laid, getting married, getting pregnant, fighting for visibility in your market, realizing your potential, being healthy, being clean, not making a fool.
De prendre soin, très vite vient prendre soin de quelqu'un, prendre soin. Et en fait, avant ça, il y a se saisir du soin. Et je pense que ça, c'est un travail, c'est vraiment un processus presque de transformation, pas totale, mais je suis la personne que je suis, et dès lors que je décide de prendre soin, voilà, ça participe d'une décision. Et donc là, j'ai cette posture professionnelle qui me place face à l'autre dans un rapport à la fois de neutralité, et à la fois j'y mets aussi, bien sûr, ma sensibilité, mes émotions, mais en même temps, je les identifie et je fais en sorte qu'elles n'envahissent pas la relation et qu'elles permettent vraiment à chacun d'avoir sa place. Et du coup, je pense que tous les gestes, que ce soit des gestes techniques ou juste la main sur la main, la main sur l'épaule, voilà, je pense que à partir du moment où on a pris cette posture, le geste devient le témoin de ce prendre soin. Cette notion du prendre soin et cette posture dont je parle, elle est possible avec l'expérience et avec toutes les rencontres qu'on fait au fur et à mesure de l'expérience professionnelle acquise. Donc je pense que c'est pas forcément évident pour quelqu'un qui débute. on n'a pas forcément tous justement pris avec nous l'idée de cette posture-là. C'est-à-dire que chacun, il y a quand même beaucoup de gens qui continuent à faire « moi je fais comme je fais, c'est ma personnalité ». Alors que je pense que à partir du moment où on ne s'est pas saisi tous les concepts qui sont proposés pendant la formation, on n'est pas dans une posture professionnelle, on est dangereux pour soi et on peut l'être pour l'autre. Donc je pense quand même que ce n'est pas inintéressant de dire que nos métiers, c'est des métiers effectivement humains, mais c'est d'abord et avant tout des métiers, et des métiers qui s'apprennent, avec justement l'intégration de ces concepts et de notions qui sont essentielles pour la mise en place d'un prendre soin qui soit optimal. Je trouve que il y a cette notion-là, justement, de rapport à l'humain qui est très forte et que tout le monde a, mais qui, des fois, prend un peu une connotation de comme si on était, comme si tous ces gens qui décident de faire du soin sont des bons humains parce qu'ils ont, cette espèce de fibre d'attention à l'autre, etc. Je trouve ça très joli, sur le papier c'est bien, mais pour le faire correctement, je pense vraiment vraiment que ça nécessite de la réflexion. Il ne s'agit pas juste d'être gentil et d'être voilà, la bienveillance, ça fait partie du combo, mais c'est pas il y a pas que ça. Et puis qu'est-ce que c'est que la bienveillance et comment vraiment je la mets en place? Par exemple, la bienveillance, je l'entends souvent chez mes collègues, ce serait occupe-toi des résidents comme si c'était ton grand-père. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense pas du tout qu'on puisse soigner les gens comme on soignerait nos proches. Je pense que c'est pas une bonne idée de faire ce transfert-là parce que là, pour le coup, je pense qu'on peut se laisser très facilement envahir par des émotions et des choses voilà auxquelles on est renvoyé. En tout cas, la tentative de formation pendant le cursus infirmier, c'est d'arriver à traiter l'autre comme le semblable, c'est-à-dire interroger le besoin que j'ai quand je me sens vulnérable. De quoi j'ai vraiment besoin. Et là, du coup, l'enseignement des concepts en soins infirmiers devient vraiment pertinent. Moi, je pense que dans les moments de vulnérabilité, l'important, c'est d'être considéré dans sa globalité avec à la fois « je veux que tu me connaisses » et à la fois « je ne veux pas me sentir jugée, je ne veux pas non plus recevoir de leçons, avoir quelqu'un en face de moi qui me dirait, qui me donnerait une espèce de panel comme ça, un mode d'emploi de ce que j'aurais dû faire pour rester en santé et ce que je devrais faire pour la recouvrer. »
Deuxième extrait de cet entretien que Romain de Bec-de-Lièvre a mené avec Dorothée Guéry, qui est infirmière en maison de retraite à Toulouse et qui tente plusieurs pistes pour définir et essayer d'approcher cette grande notion du prendre soin. Elle termine par la tentative de formation au métier d'infirmier et elle dit tout le sens qu'il y a à porter dans cette formation une formation intellectuelle au concept qui sert ensuite dans la pratique. Vous diriez les uns et les autres aujourd'hui, vous qui êtes encore assez proche de votre formation, que la formation conceptuelle que vous recevez pendant votre parcours de formation infirmier comporte cette idée du prendre soin, et dans ce cas, de quelle manière, Ottilia?
En fait, moi, ce qui m'interpelle surtout, c'est que ça fait que 2 ans que je suis diplômée, et du coup, tous les concepts qu'on a appris à l'école, ben, on les apprend surtout tous les jours en travaillant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver avec la formation de l'école et se dire « Ah, ça y est, on connaît tous les concepts, donc on les imagine d'après nos petites vignettes de cours et on peut se les représenter dans la vie de tous les jours. » Et on saura faire face. C'est surtout à chaque situation qu'on rencontre dans notre travail, on apprend. Et du coup, on peut pas encore... Enfin, moi, personnellement, je peux pas encore dire que je sais comment m'y prendre parce que j'apprends du coup tous les jours. Alors effectivement, on a des concepts en cours qui peuvent nous aider quand on rencontre la situation, mais c'est...
Ça ne constitue pas pour vous une forme de soutien, comme un souterrain théorique qui vous permet, dans des moments justement d'urgence, ou même d'urgence relative, de pouvoir prendre les bonnes décisions, de pouvoir faire les bons gestes, de pouvoir finalement s'ajouter à votre spontanéité?
Moi, j'ai surtout appris de mes collègues plus que je n'ai... Enfin, j'ai appris de l'école. Mais ce que je veux dire, c'est que les conseils de mes collègues qui étaient déjà dans le service où je suis actuellement m'ont permis de plus faire face et de plus prendre en soin de manière... dans la globalité, de la manière dont je voulais prendre en soin. M'ont plus aidé parce qu'ils avaient l'expérience du service et donc ils connaissaient les particularités de ce service-là. Que la formation, elle, était beaucoup trop globale pour pouvoir s'ajuster à des situations aussi particulières.
Comment ça s'est passé pour vous, Inès Gay? On entendait aussi Dorothée Guéry souligner le fait que ce n'est pas forcément simple au départ, quand on commence son métier d'infirmier, de pouvoir prendre soin de la manière la plus juste, la plus digne, la plus équilibrée, parce qu'il ne suffit pas, comme elle dit, d'être simplement bienveillant. Est-ce que vous avez senti, vous aussi, que ça allait être un long parcours, l'ajustement?
Oui, c'est exactement ça. Quand on débute, on a certes 3 ans de formation, et 3 ans de formation, ce n'est pas juste des cours théoriques, c'est aussi des stages, mais qui peuvent se passer dans des milieux vraiment différents. Chaque étudiant a un parcours de stage très différent, qui peut être très formateur ou moins, ça dépend. Quand on arrive vraiment au début, déjà on n'est pas forcément très bon en technique, du coup on se rattrape énormément sur la bienveillance qui n'est pas forcément la bonne, mais c'est vraiment au fur et à mesure de l'expérience, de son expérience et de l'expérience des autres. Mais l'expérience, c'est pas tout le temps qu'on passe au travail. C'est une petite histoire, une petite chose qui s'est passée avec tel patient, et a posteriori, on réfléchit en se disant « Mince, est-ce que j'ai vraiment bien réagi ?» Et tout ça, c'est se remettre en question, je ne sais pas si on peut appeler ça du développement professionnel continu, ce n'est pas exactement le bon mot, mais c'est ce qui fait que qu'au bout de 2 ans, on se sent plus en sécurité, on est plus à l'aise dans ce qu'on, dans nos connaissances théoriques et pratiques, et du coup dans l'accompagnement des patients. Fait quelque chose qu'on n'a pas au début. Pour reparler de la formation, c'est un bon socle théorique, mais chaque étudiant, fait vraiment de sa formation ce qu'il veut. Quelqu'un peut faire une formation en disant « bon, bah, très bien, j'ai la moyenne, ça passe », ou à l'inverse, vraiment se motiver pour apprendre ces concepts. C'est des concepts intéressants, c'est l'humanitude, mais c'est pas forcément des réponses qui sont faciles à mettre en pratique face à un patient. Parce que c'est jamais vraiment exactement ce qu'on nous a appris en cours. C'est toujours très différent, et ça se passe dans des situations catastrophiques pendant lesquelles on pense à 1000 choses sauf le concept étudié à tel moment en cours.
Mais probablement que ça doit nourrir certains de vos réflexes et certaines de vos réflexions. C'est aussi un mot qu'on trouve très souvent dans la manière dont sont décrites les formations d'infirmiers et d'infirmières, d'arriver à une pratique réflexive qui allie la technique de vos gestes, la sensibilité et l'intelligence de vos gestes, mais aussi de trouver au milieu de tout ça un petit espace mental pour pouvoir réfléchir à ce que l'on fait. Vous concernant, Jérôme Dairon, comment ça s'est passé justement, la manière dont vous avez senti qu'on vous enseignait le prendre soin pendant votre formation?
Alors, pour ma part, l'école dans laquelle j'étais nous imposait, avant la rentrée scolaire, de lire Le prendre soin à l'hôpital de Walter Alvin. Donc c'était une première entrée en matière, effectivement, et de voir, après, il y avait une journée de cours, mais dès l'entrée, effectivement cet aspect global de l'être humain face à la maladie, qui était assez intéressante. Mais par la suite, pour le coup, se prendre soin se faisait plus au contact des gens, et je veux dire, c'était plutôt de l'auto-formation, ou en tout cas de la formation via l'expérience de nos pères, que de vrais concepts. Effectivement, le concept du besoin a été rabâché, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème, mais pour pouvoir prendre soin, par la suite, il me semble que le besoin n'est pas le seul maître mot pour pouvoir effectivement rentrer dans ce concept où on est sur du care, sur de l'accompagnement. C'est-à-dire que effectivement il y a cette notion de semblable, mais surtout, chaque personne est unique. Donc, faisant un soin à une personne, ce soin est semblable, mais ce soin à une personne est unique. Et là, il y a cette notion d'adaptabilité qui est importante, de savoir exactement comment la personne, elle aimerait qu'on lui prodigue ce soin. Et c'est là où je pense que la formation... Alors maintenant, effectivement, il y a cette réflexivité qui est mise au sein de cette formation depuis 3-4 ans. Mais c'est tout nouveau, et on nous rabâchait surtout des protocoles, Et faut pas oublier les prises en charge qui sont les maîtres mots, hein, une prise en charge. Maintenant, ça a tendance à vouloir dévier avec le prendre en soin. On voit bien une dérive du terme. Est-ce que entre le prendre soin, la prise en charge, et puis bah derrière, il y a effectivement ce gros morceau qui est l'accompagnement, comment on accompagne une personne plus simplement.
Et c'est un gros morceau auquel vous vous attaquez de quelle manière au quotidien ?
Alors, bah, c'est déjà de savoir qui est la personne. C'est quelque chose qui malheureusement ne rentre pas. Je veux dire, les sciences humaines et sociales dans le cursus infirmier, ça y est, ça commence à émerger. Mais nous, on n'avait que très peu. Je veux dire, c'était avant tout des médecins qui venaient nous faire cours et qui alignaient les pathologies. Et de ce fait, on essaie de voir maintenant comment on peut mettre la personne, alors pas au centre forcément, mais en tout cas impliquer cette personne-là, lui faire en sorte qu'elle puisse s'emparer de cette santé qui est la sienne avant tout. Et on n'est pas là pour prendre en charge sa santé, mais bien pour lui faire prendre conscience qu'il a un problème de santé et qu'il doit remédier à ce problème de santé. Et là, on doit trouver les pistes pour pouvoir effectivement en faire en sorte que cette personne-là, elle puisse s'emparer de son expérience, de moments antérieurs qui puissent lui permettre d'avancer dans son problème. Et là, c'est effectivement de la connaissance de la personne. Et c'est du temps, c'est de la confiance. Alors effectivement, moi, je comme la personne qui témoignait tout à l'heure, je suis en gérontologie. Et effectivement, on est sur du long terme, sur de la prise en charge qui est beaucoup plus longue, sur donc un accompagnement qui est aussi social et médical, c'est médico-social. Et de ce fait, on a à prendre en soin, à prendre soin, à accompagner cette personne le plus loin possible, sans parler forcément de guérison derrière. Vous voyez ce que je veux dire ?
Donc il y a un outil en plus de tout ce que vous avez reçu comme enseignement de connaissance de la pathologie, de connaissance des gestes, qui est l'outil de votre propre analyse exercée à mesure que l'expérience grandit. C'est quelque chose que vous exercez, j'imagine, chacun tous les jours. Mais par exemple, Inès Gay, lorsque vous travaillez aux urgences à l'hôpital La Riboisière à Paris, cette espèce de scanner de savoir qui est en face de moi et comment est-ce que je vais adapter mon geste et mon soin et mon prendre soin à cette personne-là, c'est quelque chose dont que vous avez conscience de pratiquer ?
Bah oui, vraiment, d'autant plus aux urgences, c'est primordial parce que les gens arrivent avec leurs problèmes aux urgences, qu'ils soient récents ou pas. Et il faut prendre en compte tout ce qui est autour peut aider à résoudre ce problème. Je prends un exemple tout bête. Quelqu'un qui vient en disant « j'ai une ampoule au pied, s'il vous plaît, soignez-moi ». En fait, ça peut être quelqu'un qui a juste besoin d'un hébergement pour la nuit. Et ça, il faut savoir le détecter. Et ce scanner-là, il est appliqué aux urgences, mais je suppose qu'il est appliqué partout. Il faut savoir pourquoi les gens viennent. Enfin, c'est pas forcément pour soigner une plaie ou pour cette tentative de suicide qui a été faite en prenant 3 doliprane. C'est peut-être pour une alarme derrière, c'est peut-être pour... C'est vraiment du cas par cas, et le cas par cas, si on ne laisse pas le temps de le faire et de l'analyser...
On le fait pas bien.
On le fait pas bien.
qui nous fait craquer, c'est qu'on n'en peut plus. On a tellement de patients, on a tellement de choses à faire en même temps que... On ne sait plus. C'est à la chaîne.
Monsieur
Melki. Quand je dis que j'en peux plus, c'est que là, il y a 5 minutes, je ne savais même plus, moi, en tant qu'infirmière, où était le foie. Je ne sais plus, je ne peux plus réfléchir. J'arrive plus. Le fait que Rothschild est fermé et qu'on ait de plus en plus de monde, on est resté un mois en supportant encore les choses et qu'on a craqué.
Je voulais vous dire, je mets la dame là, mais je la mets où ?
Qui est cette dame, Daniel?
Eh bien, c'est Valérie qui est donc infirmière au service des urgences de l'hôpital Saint-Antoine. Valérie, infirmière au bord de la crise de nerfs, qui cherche désespérément dans le couloir encombré à installer un brancard avec une malade qui vient d'arriver. Il faut jouer des coudes et on sent bien qu'il suffirait d'un rien pour que la situation explose. Mais comme les patients ne sont pas responsables, on se contient. Bruno est aide-soignant.
On essaie de garder le sourire, de rester calme, ce n'est pas toujours évident. On a quand même une conscience professionnelle derrière en disant bon, c'est quand même important de faire du travail dans de bonnes conditions. C'est la vie des patients qui est en jeu.
Moi, la question que je me posais, et je pense que c'est quand même pas mal d'en parler ces temps-ci, c'est qui prend soin de ceux dont c'est le métier ? Quand je veux me mettre face à quelqu'un, je suis obligée de savoir qui j'ai quand je suis face à moi. Et pour ça, j'ai besoin de temps et de prendre soin de moi. J'ai beaucoup de mes anciennes camarades de promotion qui sont en service hospitalier et qui, au bout de 2 ans de diplôme, pensent à changer de métier. Donc, je pense que il y a des motivations qu'on a au départ, il y a des concepts et des notions qu'on intègre, qu'on apprend, qu'on trouve intéressantes et qui, sur le terrain, ne trouvent pas la place pour être mises en œuvre.
Deux paroles, plusieurs paroles même, hein, qui ont quelques années d'écart. Dans un premier temps, un extrait d'un journal diffusé à la radio en 1999, à la fois une infirmière et puis un aide-soignant. Le titre de ce sujet à l'hôpital était « Qu'est-ce qui nous fait craquer ?» et on entendait ces deux praticiens répondre. Et puis un troisième extrait de l'entretien mené par Romain de Bec-de-Lièvre avec Dorothée Guéry, infirmière en maison de retraite à Toulouse, qui pose la question en disant qu'il est temps absolument d'en parler. Qui prend soin de ceux qui prennent soin. Est-ce que c'est une question qui trouve des échos en vous, Otilia ?
Alors oui, forcément. Parce qu'on connaît la situation de l'hôpital et on se dit que bah forcément, sachant comment ça se passe, qu'on est toujours à courir, toujours en manque de personnel, toujours en manque de place, toujours en manque de moyens, bah, le jour où nous, on est malade, est-ce que ce sera pareil alors qu'on aura donné tout? Mais au final, on se retrouvera à n'être qu'une personne qui se balade et à se faire soigner tout simplement. Mais
alors vous voyez cette question-là de qui prend soin de ceux qui prennent soin dans la situation inverse, quand vous vous projetez en tant que personne soignée dans une future, dans une hospitalisation ou peut-être à vos vieux jours. Mmh. J'imagine que la question qui est soulevée par Dorothée Guéry est une question un peu plus large et qui ne comprend pas cette inversion et qui est prendre soin de ceux qui prennent soin au sens leur donner peut-être des conditions de travail respectables. Vous disiez tout à l'heure, Inès Gasset, du cas par cas, et si on nous laisse pas le temps de le faire, alors on le fera mal, voire on le fera pas. Peut-être prendre soin des infirmiers, prendre soin de leur possibilité de prendre soin, c'est leur laisser le temps de travailler, leur donner des bonnes conditions pour le faire.
Tout à fait. Tout à fait, il faut avoir les conditions pour prendre soin.
Concrètement, alors, comment c'est entravé dans votre métier la nécessité, le cœur de votre métier de prendre soin? Comment est-ce que vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui?
Alors, je ne peux pas le faire avec une organisation de travail complètement aléatoire. C'est-à-dire que, si on est en pleine semaine, on va avoir des scanners qui vont tomber pour des patients dont c'était pas prévu, on va avoir des ophtalmos qui vont arriver, plein de personnel paramédical qui vont entraver notre organisation de soins qu'on avait prévu sur la journée. Et du coup, toutes ces petites personnes qui vont venir prendre un petit peu de temps de tel ou tel patient, pour nous, ça va nous empêcher de prendre en soin comme on le souhaitait. Si on avait prévu de prendre 10 minutes pour cette personne, pour lui expliquer quelque chose, pour prendre le temps, et bah, si ça se trouve, il y aura une autre personne avec. C'est aussi des questions de manque de personnel, des absences pas prévues. Ça va être, normalement on est deux à travailler cette nuit et au final, ah bah il y a une personne qui a disparu. Comment on va faire ? Bah va falloir gérer quand même. Et du coup on n'aura pas le temps de prendre soin comme on le souhaite. Ça peut être aussi la discussion avec les médecins. On est une équipe, donc il y a les médecins, les internes, avec qui on travaille beaucoup. Et au final, c'est pareil, c'est une mauvaise organisation. Les internes qui vont aller parler aux patients et qui vont pas nous en informer. Et nous, on va voir les patients après. On essaie de discuter avec eux, sauf que les médecins leur ont dit une chose dont nous ne sommes pas au courant. Et du coup, ça ne fait pas avancer les choses, ça ne fait pas aider. On se demande si elle a bien compris, on se demande ce que le médecin a dit. Du coup, c'est vraiment des questions d'organisation qui vont empêcher la bonne prise en charge du patient là où je travaille.
De votre côté, Jérôme Daéron, donc je rappelle, vous travaillez en gérontologie sur l'île de la Réunion. Comment est-ce que tout ce que vous avez dit du prendre soin, que ce soit dans votre formation ou que ce soit dans votre progressive apprentissage du métier, qu'est-ce qui est entravé et pourquoi ?
Alors, ce qui est entravé, c'est tout simplement la tarification à l'acte. Je veux dire, ça veut tout dire. Il faut faire des actes, il faut abattre du soin pour pouvoir justifier d'un salaire et d'un poste. Je veux dire, c'est il est là, je pense, le souci. C'est que à partir du moment où on considère que le temps passé auprès du patient simplement pour pouvoir l'écouter et établir un contact, une relation entre le soignant et le soigné ne sera pas pris en compte dans le temps de travail, on sera pas à même de pouvoir mettre en avant nos compétences sur ce domaine du prendre soin. Si on nous demande de faire du soin, il est bien là, c'est pour pouvoir justifier d'un budget de service, d'un budget d'un établissement. Comment l'infirmier, lui, s'exprime à travers ce budget ? En faisant du soin, en faisant des glycémies, en faisant des transfusions, en distribuant des médicaments à jeun, alors que c'est pas du tout dans l'habitude du patient de prendre ses médicaments à jeun. Ça va être des choses comme ça qui vont s'accumuler et qui vont, pour justifier en fait d'un poste, il va falloir mettre du soin. Et entre ces soins, c'est à nous de prendre les interstices entre les soins pour pouvoir prendre soin, comme disait, se saisir du soin pour le voir comme médiateur dans la relation. Et c'est juste cet instant-là qu'on a en fait finalement.
C'est étonnant parce que finalement c'est comme si vous disiez que faire du soin, pour reprendre vos termes et pour répondre à la tarification à l'acte, ça allait contre l'idée de prendre soin. En tout cas, ce n'était pas suffisant. Faire du soin, ça n'est pas prendre soin.
Non, faire du soin, comme je le dis, c'est suivre un protocole. Ça veut dire suivre des étapes clés pour pouvoir faire bien l'acte technique. Mais autour de cet acte technique, il y a effectivement cette notion de prendre soin qui va être l'attention particulière qu'on va avoir pour une personne et une seule personne, qui ne pourra jamais se répéter pour les autres personnes, puisque ça va être juste entre elle et moi, à travers ce soin, qui va pouvoir être aussi bien l'évocation d'une anecdote, je veux dire, mais aussi à des habitudes alimentaires pour pouvoir aller encore sur ce domaine de la santé, mais ça peut être aussi tout simplement les loisirs qu'il a, les activités sportives, et de pouvoir effectivement adapter notre présence en tant que soignant, en tant que professionnel de santé, prenant dans sa globalité la santé avec le social et pas juste le physique et le psychique, et de pouvoir s'exprimer dans cet accompagnement et porter cette personne sur ses problèmes de santé. Pour moi il y a faire du soin, c'est effectivement abattre ce soin qu'on va avoir le matin, avoir son organisation avec glycémie, des glycémies, distribution de traitements, qui vont être pause de perfusion, et ainsi de suite, les rendez-vous aussi à mettre entre tout ça, et cette attention particulière qu'on va avoir pour la personne au-delà de...
Et qui vous semble difficile à mettre en place avec, justement, ou en tout cas dans le cadre de cette tarification à l'acte. Très rapidement, Inès Gay, aujourd'hui, qu'est-ce qui entrave votre nécessité et volonté de prendre soin, car ça répond à ce qu'est votre métier?
Alors moi, dans le contexte particulier des urgences, ce qui m'entrave, c'est quand il y a trop de monde par rapport à ce qu'on peut accueillir. Et ce trop de monde, on peut pas le délester sur d'autres urgences parce que c'est pareil partout. Mais ça, c'est particulier à notre service. Après, pour revenir à la question de base qui est qui va prendre soin de nous, c'est une douce illusion de penser que c'est l'hôpital qui va s'occuper de nous. Il faut chercher ses soutiens dans la famille, dans les loisirs qui sont à côté, se sortir la tête de l'eau. Et vraiment sortir la tête de l'hôpital. Mais...
Une douce illusion, qui pourrait se transformer en projet politique, parce que c'est comme si l'on disait que c'est une douce illusion de considérer que l'entreprise n'a pas à prendre soin de ses salariés. En réalité, pourquoi ne pas faire cette proposition-là? Pourquoi ne pas penser cette proposition-là?
Oui, bah justement, aujourd'hui c'est une douce illusion, et l'idée, par exemple, avec la manifestation de demain, c'est d'en faire une réalité.
Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues, par Marie Richaud.
Et le temps passe vite à l'hôpital et à la radio. 14h53, Alice Ramon a rencontré Clémentine Rapaport, qui est pédopsychiatre au centre hospitalier Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Elle nous parle aujourd'hui de l'importance du lieu.
Je pense que la spécificité du travail à Aulnay, c'est que, comme vous savez, c'est une banlieue qui est extrêmement difficile, avec des enfants qui sont dans des très grandes difficultés, des familles qui sont dans des très grandes difficultés. Et que je pense qu'on ne vient pas à Aulnay travailler par hasard. Donc, ça concerne la pédopsychiatrie, mais ça concerne, j'ai envie de dire, l'ensemble des professionnels de cet hôpital. C'est très sensible. Du coup, ça donne, si vous voulez, une dynamique d'échange. C'est des gens qui travaillent ici dans cet hôpital, souvent leur carrière entière. Bon, moi, par exemple, je travaille ici depuis 1995, donc ça fait déjà 21 ans. Hier, on fêtait le départ à la retraite de ma collègue pédiatre qui a travaillé ici 33 ans. Enfin, c'est des gens qui restent, qui font leur carrière ici, parce qu'il y a un vrai plaisir quand même à travailler ici, dans ce lieu, dans cet espace et dans ce partage autour des situations. On rencontre des collègues qui sont de toutes les spécialités et ça nous apporte beaucoup, parce que aussi c'est des situations qui sont particulièrement lourdes. Alors, ça nous apporte beaucoup de choses aussi en termes de prise en charge des enfants. Par exemple, le fait qu'on puisse travailler avec les pédiatres, ça nous donne la possibilité d'hospitaliser très facilement les enfants dans les services de pédiatrie. Par exemple, on a plusieurs protocoles qui sont très actifs et qui sont très utiles. Comme par exemple la prise en charge des adolescents suicidants, ça fait vraiment 30 ans que c'est ici installé, instauré, reconnu et extrêmement utile aux adolescents. Il y a une hospitalisation systématique des adolescents en service de pédiatrie, ce qui est très important parce qu'en pédopsychiatrie, par exemple, les familles et les adolescents n'accepteraient pas forcément d'être hospitalisés, vous voyez, parce que il y a une connotation stigmatisante du côté de la maladie mentale. Or, ce n'est pas forcément ce dont il s'agit dans les situations de crise des adolescents. Et d'être en pédiatrie, c'est beaucoup mieux connu, reconnu, accepté par les familles, et ça nous permet d'avoir une semaine pour travailler la crise et ensuite d'organiser un relais thérapeutique. Mais enfin, on n'est pas les seuls à travailler avec des services de pédiatrie. Mais c'est vrai qu'ici, ça a une intensité particulière parce que, par exemple, à Aulnay, il y a 3 médecins à temps plein, vous voyez, du service de pédopsychiatrie qui travaillent en liaison en pédiatrie, chirurgie infantile, néonatologie et aussi en lien avec la maternité. Donc, c'est quand même une importance quantitative et je crois qualitative. Les pédiatres y tiennent beaucoup. Par rapport à la prise en charge des adolescents suicidants, en fait, il y a des recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui date maintenant de 15 ans, hein, qui recommande justement d'hospitaliser systématiquement tous les adolescents qui ont fait une tentative de suicide pour marquer le coup et puis vraiment dénouer la crise et mettre en place des soins. Parce que si, par exemple, un adolescent se présente aux urgences avec une intoxication médicamenteuse, qui est la situation la plus classique, cet adolescent, il est renvoyé chez lui avec une adresse. Ce qu'on remarque, il y a eu des études qui ont été faites en France sur des cohortes importantes, c'est que les adolescents ne vont pas consulter. Les familles ne souhaitent pas forcément non plus aller consulter parce que ça vient révéler, si vous voulez, en général, toute une problématique familiale. Donc il y a beaucoup de résistance par rapport à ça. Maintenant, ce qui s'oppose à ça, à ces protocoles et à la mise en place des protocoles de façon systématique dans des services de pédiatrie, c'est toutes les questions médico-économiques de T2A, c'est-à-dire tarification à l'acte, c'est-à-dire que des services de pédiatrie ne sont pas du tout encouragés par cette tarification à l'acte à garder hospitalisés pendant une semaine, c'est-à-dire un séjour long, des adolescents qui n'ont pas de pathologie somatique particulière. Donc il y a des contradictions, si vous voulez, entre la nécessité de soins pour ces adolescents qui ont vraiment besoin de soins dans cette situation de crise et les enjeux médico-économiques qui vont à l'encontre, puisque il faut, vous savez, hein, faire des durées de séjour brèves, etc. Enfin, ça ne va pas dans le sens de la prise en charge.
Thorazine qui va nous servir de générique pour terminer cette première émission du chantier Prendre soin, un titre signé, on va y arriver Marie, Andrew Bird. Merci beaucoup Inès Gay d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci Otilia Aigneret d'avoir été avec nous cet après-midi. Un grand merci aussi à Jérôme Daéron d'avoir été en direct depuis l'île de la Réunion. Et bien sûr à Dorothée Guéry d'avoir répondu aux questions de Romain de Becdelièvre vendredi dernier. Les Nouvelles Vagues, c'est terminé, mais on peut continuer d'écouter et de réécouter sur franceculture.fr. On peut continuer d'échanger sur Twitter et Facebook. Un grand merci à Romain de Becdelièvre, Inès Duperron et Alice Ramon qui pensent et préparent cette émission avec moi. Aux manettes aujourd'hui, c'était Anthony Thomasson et Véronique Villa à la réalisation.